franceinter.fr.
Bonjour. Dans un peu moins d'une semaine, vendredi prochain, ce sera le coup d'envoi de l'Euro de football. Pendant un mois, les meilleures sélections européennes vont s'affronter sur les stades de France. Les amateurs de foot et les médias vont bien sûr se focaliser, et c'est normal, sur les joueurs, les principaux acteurs de cette compétition majeure du sport le plus populaire du monde. Nous avons décidé, nous, d'aborder ce matin dans Interception cette actualité de façon un peu décalée, en nous intéressant au 23e homme sur le terrain. Celui qu'on appelait avant l'homme en noir, même s'il porte aujourd'hui des tenues plus voyantes, télévision oblige, l'arbitre. Qu'est-ce donc aujourd'hui qu'être arbitre de football? Quelles sont leurs motivations pour exercer ce rôle à la fois essentiel au jeu mais ingrat? Pour les arbitres professionnels, on a bien une petite idée. Ils ont le plaisir et l'excitation de prendre part à des matchs de haut niveau. Mais qu'en est-il pour tous les autres, tous ceux qui arbitrent le dimanche des matchs amateurs et ne recueillent souvent en retour que des insultes, voire pire? Julie Pietri est allée à la rencontre de quelques-uns des 26 000 arbitres de foot français pour comprendre les ressorts de leur vocation. Qu'est-ce qui fait courir l'arbitre? Son reportage débute chez un arbitre amateur à Gonneville-la-Mallet, près du Havre.
Interception, le magazine de la rédaction.
Entrez, placez.
Vous aboient pas vos chiens?
Si, ça peut arriver. Allez, venez. Bienvenue chez moi. Placez, tu viens? Elle veut pas. Eh ben tant pis pour elle. Elle va profiter du beau temps. Comment ça a été? Vous avez fait bonne route?
Très bien, ouais.
Alors, je vous ai préparé pas de bolo. Hein. Quand je vous avais dit bonne franquette. On se fera un truc sur le pouce, tranquillement.
Qu'est-ce que vous mangez avant les matchs?
Toujours, ouais, des pâtes, ouais. Des pâtes, souvent. Pâtes, riz. Allez, asseyez-vous, installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Servez-vous, mangez à votre faim. Hein. C'est pas un repas de ministre, mais le cœur y est. Donc, je m'appelle Jean-Yves Leroy, j'ai 38 ans, je suis chef d'entreprise. Et je suis aussi arbitre de football.
Depuis combien de temps?
Là, ça fait une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais.
Et là, vous avez un journal
local.
Sous les yeux.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai été victime d'une agression au mois d'août 2015. La rencontre, c'était Atlético Fontenay. Et j'ai été pris à partie par un joueur qui avait été exclu, après match en fait, en rentrant au vestiaire.
Donc là, c'était un match local, amateur.
C'est ça. Je l'ai averti une première fois à la 26e minute pour contestation de décision arbitrale, donc carton jaune. Son entraîneur l'a sorti. Il est revenu en deuxième période et puis début de deuxième période, quoi, 46e minute. Il a blessé un joueur adverse, en fait. Donc du coup, il a pris un deuxième carton jaune, donc synonyme d'exclusion à la 56e minute. Bon, il est sorti... Il m'a juste dit, je vais te monter en l'air, quoi. Mais bon, après, parti à la douche, on n'a pas entendu parler du pays, quoi. Et puis, bah, surprise en rentrant au vestiaire, quoi. J'étais roué de coups, quoi. 14 points de suture au niveau de l'arcade sourcilière, 14 au niveau de la pommette, le nez cassé, traumatisme crânien et traumatisme facial. Et donc, 10 jours d'ITT. Et c'est quand même grave, quoi.
Là, vous avez le journal local sous les yeux. On voit le titre de l'article, c'est « L'arbitre avait subi la crise de nerfs du footballeur amateur ». Ça, c'est votre histoire.
C'est la mienne. C'est la mienne. Le jugement. C'est le jugement.
Donc on voit, on va pas donner de nom, mais on voit que c'est un jeune homme qui a moins de 30 ans.
C'est ça, oui. Il apparaît ici le nombre de condamnations le concernant aussi.
Son casier judiciaire possède 16 condamnations, dont 3 déjà pour des violences.
C'est ça. Mais bon, qu'importe, quoi. Déjà, il est radié du football à vie, donc ça c'est la meilleure nouvelle. Déjà, je pense que les instances ont été réactives, mais je pense que si en amont, déjà avant, on est tous conscients, on sait tous qu'il s'est passé des choses avant qu'il m'arrive ce qui m'arrive à moi, on aurait dû être beaucoup plus dur et beaucoup plus ferme.
Ce jeune homme-là qui vous a agressé et qui a été condamné a pris combien ?
Il a pris 10 mois de prison ferme. Je n'étais pas bien, j'étais en pleine séparation, en plein divorce. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre
dans le journal, ouais.
Voilà, c'est ce que lui donne comme réponse à partir du moment où il est auditionné. Mais pendant sa garde à vue, il dit ça. Mais attendez, et moi, j'ai pas de soucis, moi. Quand je vais arbitrer, pas mettre des cartons gratuits à des joueurs parce que mon entreprise va mal ou parce que, je sais pas, je me suis engueulé avec ma femme ou parce que j'ai un gosse qui a la gastro. À un moment donné, voilà, on est sur un moment où on fait du sport et on est censé, pour se faire plaisir. On a un collègue, il y a 3 semaines, il a pris un coup de poing au visage. Là, j'ai un collègue qui m'a appelé. Il s'est fait traiter de espèce de sale bâtard, t'es un chien, j'ai envie de te cracher à la gueule. On reste amateurs, ils sont pas payés les mecs pour jouer, quoi.
Donc Maggie, vous êtes la femme de Jean-Yves. Est-ce que vous lui avez dit à un moment donné, c'est terminé, quoi?
Oui. Aussitôt, je lui ai dit, c'est fini, tu retourneras plus au foot, je veux plus en entendre parler, c'était sujet clos à la base. On arrive dans le camion, il est bandé de partout, du sang, là on explose, quoi. Enfin, tous ceux qui étaient près de moi, m'ont pris un peu plein leur grade. Donc après, il a fallu que je l'accompagne jusqu'aux urgences. On a passé une grosse partie de la nuit là-bas. Et puis,
Aujourd'hui, il y retourne. Ouais. Vous êtes inquiète au quotidien, enfin le dimanche ?
Oui, quand même, parce que ça continue, les menaces. Les joueurs sont jamais contents après l'arbitre, donc toujours peur qu'il se repasse quelque chose. Il y a 15 jours, mes enfants y ont été, l'ont accompagné sur Gonneville. Et puis, les joueurs ont encore critiqué, encore menacé, en disant « ça y est, tu t'es pris une claque, tu vas en reprendre une deuxième ». Donc non, je suis pas confiante quand il y va, et ça, il le sait de toute façon.
Vous êtes pris par plein de sentiments. Il y a la colère, il y a l'humiliation aussi. On reste des hommes. Hein. On reste des hommes. Moi, les deux équipes, hormis le joueur qui m'agresse, je les connais tous. Vous repartez sur un fauteuil roulant avec les pompiers, quoi. Petite merde, quoi, je suis pas venu pour ça au départ, moi. Et c'est humiliant. C'est quand même de la folie, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez arbitrer, vous savez quand vous y allez, vous savez pas encore comment et quand vous allez rentrer, quoi.
Là, on va aller vous suivre sur un match. C'est un match chaud.
Ça c'est le match au couteau, celui-là. Celui-là, c'est... Il y en a pas beaucoup qui ont envie d'avoir ma place, très honnêtement.
Un derby du Havre?
Ah oui, Coquerie-aux-Villes-les-Neiges, c'est chaud bouillant, c'est bon à faire, quoi.
Des arbitres refusent de faire ce type de match?
Ah bah bien sûr. C'est pas spécialement le match où on a envie d'aller, quoi.
Mais alors pourquoi vous, qui avez en plus été agressé violemment, vous décidez d'aller sur un match comme celui-là?
Parce que dans mon arbitral, on sait bien que je vais avoir un pet au casque. C'est la passion, parce qu'il faut être fêlé quand même pour y retourner. Il y en a plein qui comprennent pas, hein. Ils me disent, faut vraiment être mordu, pas en avoir pris autant dans la gueule et puis y retourner. C'est où t'en as un pet au casque ou alors c'est t'es vraiment passionné, quoi. Donc effectivement, c'est la passion. Et là, tu vois, inconsciemment, ça y est. Là, la pression, elle monte. On arrive au sac, on sait que ça y est, on y va. Donc là, ça y est, on est tout de suite ambiance, on est dans le match, quoi. On est dedans. Thank you.
On a suivi Jean-Yves en voiture, un petit peu à distance, il préférait que ça se passe comme ça. On a quitté sa maison en pleine campagne normande, au milieu des champs, pour arriver ici, donc au Havre, dans un quartier à Haute-Tour. C'est là, dans ce quartier, le quartier de Cocry-Auville, que va se dérouler le match.
Tenez, capitaine, s'il vous plaît.
Monsieur l'arbitre. Ah ben, vous êtes en forme aujourd'hui.
Bon match, mon frère. Ben ouais, ça va être chaud apparemment, c'est ça. Hein, il vous faut des points. Abdou. En plus, t'es capitaine. Aïe, aïe, si je t'entends encore, arbitre de merde.
Venez, moi, je parle jamais, moi. Je suis discret, moi. Pas de bruit.
C'est ça, frère. Hein? C'est bon, capitaine?
Ouais.
Ok, on va au vestiaire.
Richard, t'as la clé.
Richard, la porte, s'il te plaît. Bon, les gars, le capitaine. Le gardien de but, donc on va être loin les uns des autres. Criez pas au loup, d'accord? Il y a un souci, appelez, d'accord? Moi, je privilégie le dialogue à la sanction. Mm-hmm. Donc, c'est pas la peine de crier comme c'est pas permis, d'accord? Nous, on vous respecte. Mm-hmm. On attend la même chose en retour.
Ouais,
d'accord? On va pas vous refaire la messe que vous avez tous les dimanches. Voilà, vous jouez au ballon. Contestation, les gars. Rideau. C'est bon pour les consignes dirigeants, ouais?
Ouais.
C'est bon? Ok, je vous souhaite un bon match. A tout de suite, ouais.
Bien joué, Mathilde. C'est la deuxième fois qu'il siffle fort. De toute façon, on sait comment ça marche.
Comment ça marche, Ibrahima? Vous êtes l'entraîneur, vous déneigez, hein, c'est ça?
L'équipe qui reçoit est souvent avantagée par l'arbitrage. C'est souvent comme ça. Ça m'arrive de gueuler, mais bon, juste pour essayer d'influencer. Et dès que l'arbitre hausse la voix, on retourne, on s'excuse, donc pour ne pas être sanctionné. Quand on est sur le terrain, on est, pourrait dire, transformé. On est dans le match, on voit rien d'autre. C'est la passion qui l'emporte. Donc souvent, les personnes, le joueur et la personne en dehors du terrain, c'est deux personnes ou deux personnalités complètement différentes.
Et vous alors? Quand vous êtes ici, vous êtes différent de...
Oui, complètement. Complètement. Dans la vie, je suis éducateur, donc au foot, je suis un peu plus... Je m'exprime un peu plus.
Mettez la place là, c'est ça qu'il faut. On le regarde jouer. Allez.
Ouais. C'est ça. Pas fini, les gars. Allez, allez.
Wow.
Il n'y a rien, il prend la balle.
Carton, monsieur l'arbitre, là.
Monsieur l'arbitre, à un moment donné, il va falloir faire les bons choix. Hé, hey, ça fait un quart d'heure que le ballon il part là, franchement là.
Au bout de quelques minutes là, il y a eu déjà quelques petits accrochages, des contestations, mais qu'est-ce qu'il fait là l'arbitre? Mais il n'y a pas eu de ni insultes ni crachats, ce que redoutait un petit peu Jean-Yves Leroy. Pour l'instant, on le voit courir là de but en but sur le terrain dans une tenue grise. Il montre de temps en temps ses cartons aux joueurs pour calmer leurs ardeurs quand ça s'échauffe un petit peu. Et c'est pareil pour les entraîneurs. Hein. Il va aussi souvent du côté des bancs pour discuter avec ceux dont le ton monte un petit peu trop à son goût.
Vas-y.
Mettez-moi ça au sol. Jordan, Jalal, faut mettre le ballon un peu au sol. Allez, jouez un petit peu là.
En plus, il fait que ça. Il fait... Voilà, regarde. Voilà, tranquille, seul. Attaque.
Monte, Jordan, monte un peu.
Y'a personne.
Oh, c'est l'arbitre. Oh, la faute, elle est pas dans ce sens-là. Eh ouais. Depuis tout à l'heure, vous dites que vous voyez rien. Eh, mais vous êtes payé pour voir. Vous avez un drapeau, il sert à quoi?
Mais arrête.
Quoi? Non, mais ils étaient hors jeu.
Vous m'avez dit tout à l'heure.
Ouais, je vous ai dit, appelez-moi.
Je vous appelle.
Je vous ai dit, appelez-moi. Non, vous m'appelez pas, vous me gueulez dessus. Si vous me faites la même chose,
vous vous appelez, vous n'êtes pas venu.
Alexis, vous êtes l'entraîneur de l'équipe qui est en train de gagner là.
C'est ça. C'est juste, il faut de temps en temps savoir mettre un petit coup de pression. La prochaine, il réfléchira deux fois avant de la siffler.
Ablaï, parle pas, c'est rien, replace-toi, joue. Te la bite.
Quand ils sont pas sûrs à 100%, ça joue, ils peuvent compenser sur les actions suivantes.
Monsieur l'arbitre, il y a des joueurs à terre, monsieur l'arbitre. Oh.
La terre.
Il est bien.
Bon. T'es vraiment pote.
On a ramené tout le monde au bout, dit.
Bah c'est pour ça, moi j'allais là, qui prenait la tête.
Quand j'ai commencé à dégainer, bam bam bam.
T'as mis le costaud là, je crois qu'il est agressé sur le grand touche, toi. J'ai
écouté. Dirigeant de coquerie, recalé, allez, roule.
Jean-Yves, là on est de retour dans les vestiaires. Combien vous gagnez pour un match comme ça?
56 euros.
C'est 56 euros tous les dimanches.
Tous les dimanches.
Ça le vaut?
Je pourrais même le faire gracieusement.
Richard et Samir, ce sont vos assistants, c'est ça?
Oui, sur le tout à fait. Ouais.
Richard, vous êtes arbitre assistant, donc.
Oui.
On vous a vu, vous étiez près du banc de touche des supporters.
Oui.
Il y a eu 2-3 fois où vous avez dû hausser un peu le ton ou remettre les gens à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, c'est-à-dire que c'est pas des méchants supporters. Mais on sait que la moutarde, la bombe, elle peut exploser à n'importe quel moment. Imaginez-vous si jamais il y a un truc qui se déclenche. Nous, en tant qu'arbitre, la première chose qu'on fait, c'est venir à notre vestiaire parce qu'on sait qu'on sera les premiers agressés.
Ça vous est déjà arrivé, ça, de rejoindre le vestiaire
Oui. Moi, j'ai arbitré une fois le club de Val-de-Reuil au stade Valmy, ici, ouais. Bah, les joueurs, ils nous ont lancé leur maillot en flamme dans notre vestiaire. On a dû faire appel à la police pour sortir.
Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau amateur pour arranger les choses, pour que ça se passe pas, ce genre de choses?
Il faudrait qu'il y ait un meilleur service de sécurité, fourni par les clubs ou par la ville aussi.
Vous dites un meilleur encadrement. Il y a un encadrement de sécurité, là, aujourd'hui, par exemple?
Bah non, il n'y a qu'un dirigeant, c'est tout. Imaginez-vous si jamais il y a un truc qui se déclenche, un risque, un truc comme ça, bon, il n'y a que les joueurs entre eux qui peuvent calmer le jeu, c'est tout. On n'est jamais à l'abri. Hein. Voilà.
Monsieur l'arbitre, à chaque fois, il y a 5 minutes quand le ballon, il sort, bordel de merde.
La prochaine, qu'est-ce que tu l'as?
Eh, au moins, je sais pas, ramasseur de balles, quoi, c'est ce qu'il faut, quoi.
L'arbitrage, c'est un sujet d'étude aujourd'hui. Il y a des historiens, des sociologues qui travaillent sur ce rôle central dans le sport et dans le football. Est-ce que les violences dont on parlait ont toujours existé? Qu'est-ce que fait l'arbitre en dehors du terrain, une fois qu'il a rangé le maillot? Là, nous sommes à Liévin, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, sous la pluie, et devant la faculté des sports et de l'éducation physique, un bâtiment de briques, rouge, cubique, assez moderne en fait. Ça doit être par là. Je crois que c'est là. Olivier Chauveau, directeur. Bonjour.
Bonjour. Donc, Olivier Chauveau, donc je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Artois et par ailleurs aussi délégué de la Ligue de football professionnelle.
Donc, vous êtes collègues tous les deux,
oui,
et vous, ouais. Vous êtes?
Moi, je suis William Nuitens, donc sociologue ici, professeur des universités. Depuis quelques années, on travaille sur les violences dans le sport amateur.
Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'agressions? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites précises là-dessus?
Oui, oui.
William Nuitens.
Par an, il y a 1 million de matchs. Officiellement, 1,5% des matchs qui sont entachés de faits de violence. Violence physique, violence verbale. Et l'écrasante majorité de ces agressions se font entre joueurs et après sur arbitre.
Ce que nous, on appelle les agressions physiques délibérées, donc qui vont se traduire par des interruptions temporaires de travail et puis des dépôts de plainte, c'est-à-dire des contentieux au plan pénal, c'est en moyenne entre 40 et 60 par an. Alors ce qui effectivement est beaucoup, mais j'allais dire toute proportion gardée, c'est on a à peu près le même chiffre concernant les enseignants. Alors je ne sais pas si c'est un mal-aimé, ce que je peux dire, c'est que de tout temps, c'est quelqu'un qui... a été stigmatisé, mais de par la position qu'il occupe. C'est-à-dire que le rôle de l'arbitre, c'est un rôle ingrat. Quand on consulte les archives, on se rend compte que de tout temps, dès la fin du 19e siècle, il y a des rencontres qui se terminent très très mal. Il y a des arbitres qui sont invectivés, il y a des arbitres qui sont molestés, il y a des arbitres qui sont agressés physiquement. L'idée de violence ou d'agression physique envers les arbitres qui serait de plus en plus importante, quantitativement, ça, c'est une idée qui est historiquement extrêmement contestable.
Et dans ces temps passés, Olivier Chauveau, est-ce que qui est cet arbitre en fait? C'est un gentleman lui aussi?
Oui, c'est un gentleman. C'est surtout un dirigeant plus âgé que les joueurs, et j'allais dire d'autant plus âgé que à l'époque, la performance physique importe peu.
William Snutens, aujourd'hui, vous êtes sociologue. L'arbitre a changé ?
Entre les arbitres des petits niveaux et les arbitres du haut niveau dont on parle à la télévision ou à la radio, il y a plusieurs mondes qui les séparent. Et c'est pas une activité univoque, au sens où ils ont une licence, ils ont un mandat pour arbitrer, mais souvent ils ont un boulot à côté. Mais plus on monte dans la hiérarchie, moins c'est facile. Ils ont des tests physiques en termes d'endurance, en termes de résistance. On peut pas avoir un métier à côté. C'est de moins en moins vrai. Alors, il y a une surreprésentation quand même dans l'échantillon qu'on a constitué des métiers d'ordre. Il y a beaucoup de militaires et de policiers. Chef d'entreprise d'une entreprise de nettoyage. C'est marrant. Il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit bien propre. Moi, le premier de haut niveau que j'ai rencontré, je l'ai appelé l'étalon. Il ressemblait déjà à une espèce de pur sang, il était nickel, super bien coiffé, super bien habillé. Il avait un kiné, il avait un nutritionniste. Je n'en revenais pas de ce que je voyais, quoi. Et de ce que j'entendais. Quand ils me parlaient de comment ils préparaient leur match, je me disais, mais si on savait un dixième de ce que j'entends là quand on est joueur, mais ça changerait tout sur les terrains, quoi. Parce qu'on se rend compte que il y a un niveau d'expertise et de préparation qui est inimaginable. Moi, j'ai été joueur, un joueur de district. J'étais quand même pas forcément très cool avec les arbitres, quoi. Mais je dirais, je suis représentatif d'un tas de joueurs qui sont pas éduqués à ce que c'est qu'arbitrer, ni par leurs éducateurs, ni par le monde du football. Vraiment, l'angle mort du football en matière d'arbitrage, c'est vraiment la formation des éducateurs et des entraîneurs. Enfin, les joueurs n'ont pas de formation au respect de l'arbitrage, comme ils n'ont pas forcément de formation en matière de loi du jeu. On connaît pas forcément les règles du jeu. Bon, bref.
Les joueurs ne connaissent pas les règles du jeu.
Oui. Souvent, les commentateurs, c'est le même niveau qu'un mec qui regarde un match dans un bistrot. C'est formel public. On parle pas du nombre de kilomètres qu'il a parcouru, on parle pas de la distance qui le séparait des situations de jeu et de l'endroit où il se trouvait, on parle pas de la manière avec laquelle il parvient à regarder ses juges de touche. On met le ralenti sur des phases litigieuses qui vont super vite. Sur une heure et demie de match, il y a de l'erreur, et on ne parle que de l'erreur. Et le téléspectateur ne voit que l'erreur. Et il est socialisé à l'arbitrage à travers l'erreur et à travers son erreur.
Être arbitre, qui plus est de haut niveau, ça demande donc des sacrifices, des efforts en tout cas, des week-ends réservés, une mise de côté du travail pour les arbitres les plus prisés, et puis un entraînement exigeant. Alors là, on va rencontrer un arbitre qui est parmi les meilleurs en France, un jeune arbitre, il a 34 ans, il s'appelle Benoît Millot, il fait partie des 10 arbitres centraux internationaux français, et il nous a donné rendez-vous à Châtenay-Malabry, devant l'endroit où il exerçait son travail, son activité avant, parce que maintenant il a une carrière tellement pleine au niveau de l'arbitrage qu'il a dû se mettre en disponibilité. Bonjour.
Vu l'appareillage, ça doit être vous.
Bonjour Benoît, enchanté.
Julie.
Donc vous travaillez en fait avant votre disponibilité au service des sports de la mairie de Châtenay-Malabry.
C'est ça, pendant sept années. Ouais, je travaillais là pendant, et vraiment ici dans les bureaux. Pendant 7 ans, alors j'essayais d'aménager mon emploi du temps pour être sur l'arbitrage et sur le boulot. Plus les années ont passé, plus c'était compliqué de faire à la fois et le foot et le boulot.
Là, vous avez un match tous les combien maintenant ?
C'est minimum une fois par semaine, parfois deux. Il y a encore quelques années en arrière, peut-être en 4-5 ans, en peu de temps, ça a quand même beaucoup bougé. À peu près tous les arbitres avaient une activité à côté. Là, désormais, la plupart, notamment ceux qui sont internationaux, par obligation, se détache complètement à l'arbitrage. Donc c'est l'augmentation du nombre de rassemblements et d'entraînements au quotidien et de matchs qui font que c'est plus possible de mener de front plusieurs carrières.
Ça veut dire qu'il y a plus d'exigences aussi par rapport à tout ce que doit maîtriser un arbitre aujourd'hui
Tout à fait. Notamment au niveau physique, on est suivi par un préparateur physique de la Fédération Française de Football, détaché aux arbitres. Alors ça, je le dis, c'est vrai pour les arbitres de Ligue 1, de Ligue 2 et même de National. Voyez, et en fait, on doit envoyer chaque semaine nos données d'entraînement. Et ces données d'entraînement, en fait, on ne les envoie pas comme ça par écrit. Cette semaine, j'ai fait deux jogging et une fois de la musculation. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a notamment des montres Polar GPS qui nous permettent en fait d'enregistrer toutes nos données d'entraînement et qu'on envoie à ce préparateur physique. Et ceci étant dit, si notre préparateur physique évaluait notre semaine d'entraînement comme non concluante, un match éventuellement sur lequel nous serions désignés pour le week-end nous serait enlevé. Et à la fin de, à la fin d'une saison, donc c'est comme une équipe. Il y a des montants, il y a des maintiens, il y a des descentes. Donc pour un arbitre, il n'y a pas de relâchement naturel, on est observé à chaque rencontre. Juste comme ça, pour avoir un repère, les arbitres de Ligue 1, la plupart du temps, sur une rencontre de première division, donc, font une distance à peu près purement physique d'à peu près 10 à 12 km. C'est un vrai effort physique.
Plus qu'un joueur ?
Les joueurs, à mon avis, qui se rapprochent le plus des arbitres sont ceux qui jouent souvent au milieu de terrain, parce qu'ils se défendent, autant qu'ils essayent peut-être de se projeter vers l'avant. Pour être bien, et disons pour être au niveau physique d'une rencontre, une semaine d'entraînement, c'est à peu près 4 séances, plus le match. Donc, en gros, une semaine type, c'est à peu près 5 rendez-vous sportifs. Donc aujourd'hui, ça va être une séance, grosso modo, de récupération par rapport aux bilans médicaux d'hier, parce que les bilans médicaux, ce sont des moments assez intenses. Comme on évalue la capacité physique maximale de l'arbitre, c'est des séances, ce sont des bilans médicaux où on envoie quand même pas mal de gaz.
Voilà. On y va ?
Allez, on y va. En avant.
On va laisser Benoît Migaud s'entraîner. Là, il est en train de faire des tours de terrain dans sa tenue des sports, short et t-shirt noir. On va le retrouver un petit peu plus tard à Clairefontaine avec tous les autres arbitres pour la formation d'avant-match. Avant certains matchs, des matchs de Ligue 1 par exemple, les arbitres viennent ici, à Clairefontaine, c'est là où nous nous trouvons maintenant. Donc on est en plein milieu de la forêt de Rambouillet, c'est très vert. Il y a aussi des terrains de foot partout évidemment. Et c'est donc ici que les arbitres vont s'entraîner une dernière fois avant la dernière journée de Ligue 1. On se situe à peu près à la mi-mai. Là, il y a Pascal Garrigan qui est devant nous, devant le château de Clairefontaine. C'est le directeur technique de l'arbitrage.
Bienvenue à Clairefontaine.
Merci.
Bonjour.
Alors, Pascal Garrigan, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer ce matin ?
C'est un atelier athlétique avec Jean-Michel Pratt, le préparateur athlétique des arbitres depuis plusieurs saisons, qui va les mettre en jambes.
Vous-même, vous êtes ancien arbitre international.
Oui, moi j'étais 15 ans dans le secteur professionnel, 10 ans international. J'ai arrêté ma carrière en 2006, 10 ans déjà, oui.
Ça vous manque ?
Faut rester lucide, hein, à 55 ans, non.
Jean-Michel Pratt, à Châté.
Là, on est sur un terrain synthétique.
Complètement.
Vous avez un chronomètre à la main, ça veut dire que ça va être intense aujourd'hui ?
Non, ça veut dire que je paramètre tous les facteurs de l'entraînement. Donc tout est étudié en amont, le plus possible. Mais le but, c'est toujours pareil, hein, d'augmenter la performance et puis de la maintenir.
Et alors, Jean-Michel, vous êtes satisfait ? Ils sont bons, nos arbitres, aujourd'hui, en France ?
Pour voir un peu ce qui se passe aussi à l'étranger, je pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs. Aujourd'hui, notre groupe est un groupe assez jeune, donc manquant peut-être encore un peu d'expérience par rapport à certains arbitres aguerris du très haut niveau européen qui ont 45 ans, voire plus. Clément qui a intégré le Gotha des arbitres européens.
Clément Turpin,
bien sûr,
et le
plus jeune. Mais je peux vous dire que sur le plan athlétique, sur le plan technique, ils n'ont rien envié aux autres. Bien au contraire, je peux vous dire que lors des tests physiques, nos arbitres font partie des meilleurs, si ce n'est les meilleurs. Donc non, on est relativement satisfait de ça. Maintenant, après, il faut laisser le temps au temps. Je dois vous laisser.
On y va, les garçons. Engagez le haut du corps, les gars, de suite. Les mouvements du haut du corps, allez!
Sur le terrain, là, on voit donc Jean-Michel Pratt, qui est le préparateur physique, qui est habillé en rouge, et tout autour, les arbitres qui fonctionnent par trio, qui sont en maillot de couleurs différentes.
Prenez vos bouteilles d'eau, tous, s'il vous plaît, Benoît. Prenez vos bouteilles d'eau avec vous, obligatoirement.
Donc on voit par exemple Clément Turpin avec ses deux arbitres assistants. Clément Turpin, c'est un jeune arbitre qui est le seul avec son équipe d'ailleurs à être qualifié pour l'Euro 2016, ça veut dire qu'il va arbitrer pour l'Euro 2016, il va arbitrer aussi pour les JO. Et il y a aussi Benoît Migaud qu'on a rencontré un petit peu plus tôt.
Allez, venez par là, les gars.
Benoît, vous allez vous mettre avec ton trio entre les deux coupelles jaunes orientées vers la ligne de but là-bas. Clément, en bleu ici, s'il vous plaît. On est parti. On va faire défendre les bleus. Ça joue. Hey. Ça joue. Hey, hey.
Vas-y.
Enchaîne. 2, 3, 4, 5.
C'est les verts. Oh là là, la misère.
Ouais, on est avec les bleus.
Un jour, 3, c'est les bleus qui défendent. 4, hop, c'est terminé. Vert, donne. Prends, 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 ouais. Chien là-bas. Jamais.
C'est ici, vous pour.
Place en cloche. Top, 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 top. Soufflez, récupérez tranquillement. Tu donnes le rouge déjà.
Ce que vous essayez de faire, Pascal Garibian, c'est aussi de professionnaliser la fonction d'arbitre.
Ce qui est important, c'est que la professionnalisation, c'est le sens de l'histoire de l'arbitrage à l'échelle de ce qui s'est fait en Europe. Ça doit se faire de manière progressive, transitoire, permettre à un groupe d'élite qui va se constituer sur plusieurs saisons de devenir complètement arbitre avec des rassemblements qui passent de 9 en moyenne pour un arbitre de Ligue 1 à Clairefontaine, à 22 pour la saison prochaine, 22 rassemblements, 22 semaines impactées à l'échelle d'une saison. Aujourd'hui, les arbitres perçoivent, en tant que travailleurs indépendants, un fixe mensuel et puis des revenus en fonction des matchs qu'ils arbitrent. Ceux qui pourront intégrer à notre demande ce groupe élite percevront un revenu minimum moyen de 130 000 euros pour la saison prochaine. Voilà.
Pascal Garibian, vous avez donc été arbitre international. Mm-hmm. Vous deviez à ce moment-là poursuivre votre activité même temps.
À mon époque, nous ne percevions qu'une indemnité de match. Si nous étions désignés en Ligue 1, nous avions 2000 euros. Si nous étions désignés en Ligue 2, nous avions 1000 euros. J'arrondis. Hein, voilà. Et parallèlement à ma carrière d'arbitre international, j'étais officier de police, j'étais inspecteur, puis commandant de police à la brigade de protection des mineurs, puis après à la communication porte-parole de la police nationale. Voilà.
Aujourd'hui, donc, il y a plus de formation ici notamment, il y a ce plan de professionnalisation. Mmh. Est-ce que ça veut dire que les arbitres d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux de votre époque en moyenne ?
Certainement. Non, au-delà de la boutade, le football est de plus en plus rapide et de plus en plus médiatique. Nos grands aînés étaient d'excellents arbitres. Ce qui a varié, c'est l'exigence athlétique. Et ce qui a évolué, c'est la couverture médiatique, avec de plus en plus de caméras. Moi, dans ma carrière, j'ai vu arriver Canal+, j'ai vu arriver tous les matchs de Ligue 1 diffusés. J'ai vu arriver la multiplication des caméras, j'ai vu arriver la loupe, etc., etc. Par contre, je n'ai pas vu arriver, parce que c'était pas encore le temps, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les arbitres sont confrontés aux réseaux sociaux, avec tout ce que ça génère. Par exemple, l'année dernière, des médias ont repris les déclarations soi-disant de Benoît Bastien sur son compte Twitter qui répondait à des supporters, alors que c'était un faux compte, quoi. Heureusement, il l'avait découvert et 6 mois avant, il avait déposé plainte. Mais voilà, ce monde de la communication est difficile parce que quand un arbitre est pris dans un contexte de match, post-match difficile avec une polémique, il y a une résonance qui est beaucoup plus importante qu'à mon époque.
Le central à moi, réaction. Hey, bien joué. Allez, Charles, accélère.
Magnifique de Chéréa qui part balle au pied, qui cherche un partenaire, qui cherche des appuis. Il a trouvé le petit Diané.
Eh bien, les Marseillais ont trouvé la solution, mais les Marseillais devront méditer leur première mi-temps décevante et surtout ce festival d'occasions manquées par Sana, par Sienne, par Gandin, par Nyon.
14 minutes dans ce match, 20e journée du championnat de France de Ligue 1, le FC Nantes et Lorient à égalité 0 à 0. Ce sont les Nantais qui ont le ballon et qui construisent et qui travaillent sur le côté de
Dans ce monde du foot masculin, où nous n'avons croisé d'ailleurs pour l'instant que des hommes, il y a aussi des femmes. Une arbitre de Ligue 2, par exemple, qui s'appelle Stéphanie Frappard, et puis des universitaires aussi, passionnées par le sport et l'arbitrage. Géraldine Rix en fait partie. Elle est anthropologue à Clermont-Ferrand, et nous l'avons rencontrée dans un café parisien. Qu'est-ce qu'une anthropologue vient faire dans le monde de l'arbitrage ?
Je me suis dit, mais quelles sont les compétences de ces personnes-là
qui font qu'elles arrivent, la plupart du temps, à orienter l'activité des joueurs, à la gérer, à la manager. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui font face à des situations extrêmes, complexes et face à tous.
Est-ce que l'apport de technologie dans le football peut être une béquille pour ces arbitres ?
Alors, ce que je pense, c'est que il faut poser la question de comment on va l'utiliser, cette technologie. Pour moi, si elle doit intervenir, elle doit effectivement intervenir comme une aide à l'arbitre si il en a besoin. Et si lui décide qu'il y a une sorte d'incertitude qu'il ne peut pas lever dans l'instant, et s'il ne peut pas la lever dans l'instant, autant lui donner les éléments complémentaires qui lui permettraient de mieux documenter la situation. Si c'est quelqu'un qui vient dire à la place de l'arbitre, là finalement, on ne sait pas s'il a bien arbitré, et qui vient utiliser la vidéo comme une contre-preuve, là je ne suis pas sûre qu'on aille vraiment dans les valeurs et l'esprit du sport. Si on veut penser que, ou si on tend à penser que la vidéo va dire le vrai absolu, finalement, ça serait la manière de rendre transparent un certain nombre de choses, je pense qu'on se trompe.
Mais pourquoi ?
Parce que la vidéo, elle est perspective. C'est-à-dire, normalement, une vidéo, si vous voulez avoir une exhaustivité de situation, il va toujours vous manquer un plan. Et là, je pense que les vidéos, notamment dans le milieu sportif, sont construites pour le spectacle. Et ces vidéos qui sont construites pour le spectacle, je ne suis pas sûre qu'on puisse leur faire dire le vrai.
Mais ça correspondra finalement ce qu'on verra à la télé à l'arbitrage final. Là, on verrait à peu près la même chose, non ?
Du coup, pour moi, c'est acheter la paix sociale. Ça veut dire que c'est pas tant le jeu qui se passe sur le terrain qui va être le plus important, qui va devenir le plus important. Ça risque d'être l'image. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est l'activité effective de l'arbitre sur le terrain.
Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Je crois que vous avez des vidéos.
Oui. Alors, on travaille beaucoup sur vidéo. Donc, soit on travaille avec des caméras embarquées, placé vraiment au niveau de la tempe de l'arbitre. Alors les vidéos, voilà ce que ça donne.
C'est toujours pour revoir les images.
Donc là, c'est la vidéo avec le commentaire de l'arbitre par-dessus, c'est ça ?
Exactement.
Donc là, on voit un terrain de nuit, éclairé.
Laisser le son et voir les images de ça, c'est pas...
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit rien. Quand on n'est pas habitué, on voit rien, et il y a une sorte de finalement de perturbation, parce que quand on regarde un match quotidiennement, les deux équipes changent jamais de côté. Hein, c'est très construit de manière télévisuelle. Et en fait, quand on regarde la perspective de l'arbitre, ça tourne dans tous les sens. On cherche le ballon, etc. Et donc, du coup, c'est déjà d'essayer de montrer que si on n'y voit rien. Effectivement, on pourrait être beaucoup plus compréhensif, pas pour dire voilà, c'est très compliqué. Non, c'est pas c'est très compliqué, mais je construis un regard qui me permettrait d'arbitrer. Et je peux pas arbitrer dans mon fauteuil. L'idée, c'est pas d'accepter tout ce que dit un arbitre. C'est quand même d'essayer juste de comprendre sa perspective et finalement, quelquefois, d'accepter qu'il y a plusieurs perspectives possibles.
Venez là les garçons, prenez les ballons. Allez Benjamin. Elias.
Une balle comme ça, il faut aller jouer.
Ok, c'est moi, ça va être un volontaire. Oh merde. Allez garçons, on se regroupe, mettez les ballons sur les côtés. Gardez-en un. Pour l'échauffement, on va se servir de l'espace délimité par les plots jaunes, c'est bon. On fait pour l'instant un 6 contre 5. Pour marquer un point simple, il faut réussir un redoublement de passe. J'ai la balle dans les pieds, je la fais à Jesse. S'il me la remet à moi, on marque un point. Par contre, on n'a pas le droit de refaire le même redoublement de passe tout de suite après. On est obligé de changer sur un troisième joueur. D'accord ? On va travailler sur ça aujourd'hui, les jeux réduits et les redoublements de passe. C'est bon ? Allez, récupérez une balle. Ok, 4-3. 4-4.
Nous sommes maintenant à Meaux, en région Île-de-France. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a un coach et une quinzaine de joueurs. Et dans ces joueurs, il y a des arbitres qui s'entraînent. Donc, ce sont des jeunes qui sont au lycée, donc qui ont à peu près 16-17 ans, et qui s'entraînent ensemble. Le lycée Pierre de Coubertin à Meaux, c'est un des établissements scolaires en France qui forme dans ses sections sportives les joueurs aux côtés des arbitres pour que les deux corps puissent mieux se comprendre.
7-4. Lâche après ton premier dribble, Ilias. T'avais fait le plus dur à chaque fois. 7-5. Premier à 10, on change.
Je m'appelle Sofiane Boicaz, j'ai 16 ans, je suis né le 10 novembre 1999. Je suis à la section Pierre de Coubertin, football en filière arbitrage. Donc en fait, c'est ce qui me permet d'allier les études, qui sont primordiales pour mon futur et pour avoir un métier, pour pouvoir gagner ma vie plus tard, et ma passion qui est le foot et en particulier l'arbitrage. Donc je peux les lier les deux tout en étant dans le plan scolaire et dans un plan éducatif très intéressant.
Et pourquoi l'arbitrage alors ?
Bah avant, je jouais au football en fait, et puis... Je voyais que pour moi, il y avait plus de... Je pense, comme tout enfant, quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur. Après, arrivé à 12-13 ans, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai vu que ceux qui allaient finir footballeur ou qui étaient vraiment bons, ils avaient déjà décelé un talent. Moi, j'étais un bon joueur, mais pas exceptionnel. J'ai fait la formation initiale à l'arbitrage pour devenir arbitre officiel. Ça m'a vraiment plu et je suis épanoui.
Vous avez un modèle en arbitre ?
Bah, y a plein de bons arbitres. Après, je pense que le modèle de tous les arbitres, c'est Colina, qui est l'un des arbitres les plus célèbres de tous les temps. Donc, c'était par son autorité, mais par sa pédagogie avec les joueurs, il fait vraiment rêver tous les arbitres, je pense.
Colina, alors pour ceux qui connaissent pas bien le foot, ils peuvent s'en souvenir parce que c'est un homme qui arbitrait, qui a le crâne rasé.
Oui, c'est ça, exactement, ouais.
Qu'est-ce que ça apporte d'être formé arbitre et joueur côte à côte, comme ici dans le lycée?
Bah, ça nous permet en fait de vivre tous les jours avec les joueurs. Par exemple, à l'internat, je suis dans la chambre des joueurs. Toute la journée, on est ensemble. Donc ça, en fait, ça leur permet vraiment d'avoir un autre point de vue de nous, les arbitres. Et ils voient à quel point la fonction d'arbitre, elle est difficile. Donc je pense que ça leur permet, et eux, de comprendre notre fonction, et nous, de voir leur point de vue aussi. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts maintenant, et puis quand il y a leur coéquipier ou quelque chose comme ça dans leur équipe le week-end dans leur club qui discute avec un arbitre, je pense qu'ils le recadrent.
Est-ce que tu connais quelqu'un là qui est un joueur qui est là sur le terrain en ce moment et qui a beaucoup évolué dans sa façon de voir les arbitres?
Ouais, il y a Ilias là, qui est où Ilias? Il est parti chercher le ballon là-bas. Bah avant, quand on est arrivé le premier jour, on est rentré en seconde ensemble, donc il en a plus que moi puisqu'il est redoublant, mais ça change pas grand-chose. L'année dernière en seconde, je m'en rappellerai toujours, il me dit oh, les arbitres, non, je les aime pas, moi je leur parle mal. Et puis depuis qu'on est à la section, dès qu'on est rentré à, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, bah son comportement sur le terrain envers nous et tout, il a complètement changé. C'est plus la même personne avec les arbitres.
Ah ouais, je criais sur les arbitres parce qu'ils m'énervaient. Je suis un joueur, j'aime bien mettre des coups, donc à chaque fois ils me rappelaient à l'ordre, donc ça m'énervait. Maintenant j'ai compris. Je comprends pourquoi ils font ça, c'est pour protéger aussi l'adversaire. Pas forcément pour nous pénaliser nous, mais c'est pour que le match se passe bien. C'est indispensable, ça évite de prendre des coups, ils servent beaucoup.
Ilias, vous aimeriez être arbitre vous ?
Non, je préfère jouer sur le terrain.
Quand même pas.
Je laisse être arbitre, mais je préfère jouer sur le terrain.
Il aime trop le ballon, il lâche pas son ballon pour être arbitre. En fait, le ballon il va passer devant lui, il va vouloir le tirer.
C'est bien joué Pedro, mais t'as été trop vite. T'étais en avance sur le ballon.
Une voix discordante un peu maintenant, on va rencontrer un ancien arbitre aussi, comme Pascal Garibian d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Derrien, qui a été arbitre international pendant 27 ans, et qui lui a une vision en général assez critique de l'arbitrage, de la façon dont ça a été conçu ces dernières années. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « À bas l'arbitre » qui a été publié il y a quelques années. Il nous a donné rendez-vous au stade Charletti. Vous en pensez quoi du niveau de nos arbitres français aujourd'hui ?
Ah, bah, l'arbitrage français est en pleine reconstruction. D'abord, il faut se féliciter qu'on ait un arbitre français à la Coupe du Monde, enfin au Championnat d'Europe, pardon, en France. On l'organise. Ça n'aurait pas été top qu'on ne soit pas représenté. On l'organise, donc. Sachant qu'en 2014, au Brésil, on était absent. Sachant que depuis 2001, je dis bien 2001, il n'y a pas un arbitre français qui a dirigé une finale de Coupe d'Europe. Et sachant que le dernier arbitre français à avoir dirigé une finale de la Ligue des Champions, c'est 1986, Michel Vautreau. Donc ça remonte à très loin. Hein. Voilà, félicitons-nous qu'il y ait un arbitre français. On a besoin d'une locomotive, on a besoin d'être représenté dans les grandes compétitions internationales, mais force est de constater qu'on a beaucoup de retard. Puis c'est comme les générations de l'équipe de France, il y a des générations qui sont plus fortes que d'autres. Alors, moi, je ne veux pas dire passer jouer aux vieux combattants, aux anciens combattants, mais à de mon époque, on avait des arbitres qui avaient de vraies personnalités. Reconnus, je pense à Alain Sars, je pense à Gilles Vessière, je pense à Claude Colombo, des gens qui avaient personnalité sur le terrain, reconnus à l'extérieur.
Après, il y avait un creux. Entre 2006, je dirais, et 2016, pendant 10 ans. Quoi. Voilà. Il n'y avait pas d'arbitre qui crevait l'écran, quoi, qui s'imposait par son charisme. C'est aussi un problème de formation, sans doute, probablement, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. J'ai le sentiment, moi, que la direction de l'arbitrage, pendant quelques années, a aseptisé les personnalités. Un bon arbitre, c'est un arbitre qui exprime son libre arbitre. On dit Colina, il y a la règle, il y a le règlement, mais il y a l'esprit et la lettre. Vous voyez, quelqu'un qui impose son autorité sans mettre des cartons systématiquement, qui est une autorité naturelle. Tout ça a été sanctionné à un moment donné.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être là-dedans un problème de formation. Alors là, on entre dans une phase où il y a un plan qui va se mettre en place, un plan de professionnalisation des arbitres.
Bon, écoutez, moi, je suis contre. Enfin, si j'avais eu le choix, moi, j'ai toujours opté pour le semi-professionnalisme. Ils consacrent 50% de leur temps à leur sport et 50% à leur job. En plus, on leur propose une reconversion au terme de leur carrière. À mon avis, c'était la situation idéale. J'ai toujours pensé que penser foot, penser arbitrage toute la journée n'était pas pour moi la meilleure solution pour préparer ces matchs. Aujourd'hui, ils vont se consacrer pleinement à l'arbitrage. Ils feront que ça, mais ça va poser des questions. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Les contrats vont durer combien d'années ? Pour ceux qui ont un emploi aujourd'hui, vont-ils pouvoir le quitter pour l'arbitrage, sachant que c'est une situation assez aléatoire ? Certes, ils seront formés, ils auront plus de temps pour se réunir, pour se consacrer pleinement à leur mission. Je crois qu'ils seront réunis plusieurs semaines par an à Clairefontaine. Ok, mais au final, il y aura toujours des polémiques d'arbitrage. Parce que les arbitres sont professionnels, il n'y aura plus de polémiques. On se met le doigt dans l'œil.
Avec le respect que moi-même je vous dois aussi, monsieur me conteste alors qu'il n'est même pas sur la feuille de match.
C'est lié, bien sûr que c'est lié. Et là-bas, ils sont combien, monsieur l'arbitre ? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur l'arbitre. Ils sont combien là-bas ?
Qu'est-ce qui fait courir l'arbitre ? C'était un reportage de Julie Pietri. Prise de son Benjamin Chauvin, Tanguy Le Corneau et Bastien Varigaud. Réalisation Anne Lioro, assistée de Fanny Cohen-Moreau. Mixage Éric Boisset. Notre page internet est réalisée par Zora Bensmaï. Après le journal de 10h, c'est la comédienne Virginie Efira qui sera l'invitée du Remède à la mélancolie d'Eva Bester. À dimanche prochain.